Chapitre 2e. Le fugitif devient évangéliste. Cependant, peu à peu, Calvin sortit de sa retraite. Renfermé dans sa bibliothèque, il commençait à soupirer après l'air des campagnes, comme Luther à la Wartburg. Il sortit quelquefois, ou seul, ou avec son ami, et parcourut les collines et les bords paisibles qu'arrose la Charente. Les sites autour d'Angoulême ne présentaient pas cette grandeur qu'elle devait trouver un jour sur les rives du Léman. Mais tout était beau pour lui dans la création, parce qu'il voyait partout le Créateur. Il pouvait même être profondément ému par les beautés de la nature. « En présence des œuvres de Dieu, disait-il, nous sommes surpris d'étonnement et nos langues et tous nos sens défaillent. » Non loin de la ville se trouvait une vigne qui appartenait aux chanoines. Un jour, Du Tillet y conduisit son ami. Calvin, charmé, y revint fréquemment. Le souvenir en est resté dans le pays et cette vigne s'appelle encore aujourd'hui la Calvine. Vers ce temps, le petit cercle s'augmenta. Jean Du Tillet, plus tard évêque de Meaux, arriva à Angoulême. Il s'attacha de tout son cœur à Calvin. Celui-ci, voulant se rendre utile aux deux frères, leur offrit de leur apprendre le grec, et, tout en leur enseignant à lire le Nouveau Testament, il leur y faisait chercher Christ. Jean écoutait avidement les paroles du jeune docteur. Aussi fut-il longtemps suspect aux catholiques romains, et, ayant publié en 1549 un manuscrit fort ancien attribué à Charlemagne, contre les images, on sait que les Libri Carolini leur sont opposés, il excita de grands murmures. « Vraiment, dit le célèbre cardinal du Perron, celui qui a été écolier de Calvin ne pouvait avoir d'autre opinion. » Ces leçons, commencées à Angoulême, se poursuivirent à Clay, où Du Tillet passait une partie de l'année. On demandait dans le village quel était ce jeune homme de petite taille, pâle, maigre, au regard à la fois grave et doux, que l'on rencontrait souvent avec les messieurs Du Tillet. Les mieux informés disaient qu'il leur donnait des leçons de grec. Cette étude était une chose si extraordinaire dans l'Angoumois que les gens du pays, ignorant le nom du professeur, l'appelaient le grec de Clay ou le petit grec. Quelques hommes notables des environs du Clay rencontraient parfois les amis. On entrait en conversation et, dit un contemporain, tous ceux qui aimaient les lettres estimaient le jeune savant. Sa connaissance des classiques, son goût si sûr, si fin, les attiraient à lui. Certains amis des Du Tillet, ecclésiastiques de bonne famille, hommes de lettres et de cœur, furent bientôt dans l'admiration de ses vertus et de ses talents. C'était Antoine de Chailloux, prieur de Bouteville, l'abbé de Balsac, Préjarnac, le célèbre de la place, le sieur de Torsac, Charles Giraud et d'autres encore. La figure de Calvin, sa mise simple, son apparence modeste, intéressèrent ces hommes de bien dès le premier abord. Et ce regard limpide et pénétrant qu'il conserva jusqu'à la mort leur révéla bientôt la vive intelligence et la droiture du jeune grec. Ils conçurent pour lui la plus cordiale affection. Ils aimaient à l'entendre parler du Sauveur, du ciel, et se livraient à ses enseignements évangéliques sans penser être infidèles à ceux de l'Église. Ce fut à cette époque le cas de beaucoup de catholiques. On ne trouvait pas en Calvin ce qui fait dans le monde les beaux parleurs, sornettes, plaisantes rencontres, railleries, brocards et toutes niaiseries, lesquelles s'en vont en fumée, mais l'agrément et l'utilité de ses paroles captivaient ceux qui l'entendaient. De la place, surtout, reçut de lui une impression profonde. « Je n'oublierai jamais, lui écrivit-il plus tard, comment vos conversations m'ont rendu meilleure lorsque nous étions ensemble à Angoulême. » « Oh, que ne vous donnerais-je dans cette vie mortelle pour la vie immortelle que j'ai alors reçue ?» Les fréquentes visites faites aux Grecs par des personnages considérés furent bientôt remarquées du clergé. De notre côté, Bouteville désirait substituer à de simples conversations des conférences plus régulières. Il habitait le château de Gérac, situé dans les lieux moins fréquentés. « Venez chez moi, disait-il à ses amis, et que chacun expose librement ses convictions et ses objections. » Calvin hésitait à s'y rendre. Il aimait la solitude et parlait peu en compagnie. Mais la pensée d'amener ses amis à l'évangile le décida. Un jour donc, le modeste docteur parut au milieu des hôtes du prieur de Bouteville. Une pensée l'avait préoccupé en se rendant à Gérac. Il songeait que la vérité n'est pas une chose vulgaire, qu'elle s'élève de beaucoup au-dessus de la capacité de l'entendement humain et qu'il faut l'acheter à tout prix. Arrivé au milieu de ses amis et les salutations mutuelles ayant été échangées, il leur parla de ce qui remplissait son cœur. Il ouvrit les Écritures, posa sa main sur le livre et s'écria « Trouvons la vérité !» Toute la conférence, dit Florimond Raymond, catholique passionné, n'était que pour chercher la vérité, mot qu'il avait ordinairement à la bouche. Calvin, au reste, ne se posait pas en oracle. Il s'adressait à la conscience. Il montrait que Christ répondait à tous les besoins de l'âme. La conversation s'engageait. Ses amis présentaient des objections. Jamais il ne restait court, ayant une merveilleuse facilité, disait-on, à pénétrer tout d'un coup les plus grandes difficultés et à les éclaircir. Les habitués de Gérard s'en retournaient joyeux par leur chemin. Après ces conférences, Calvin revenait dans sa retraite et il priait pour ceux auxquels il avait parlé et pour d'autres encore. « Si quelquefois nous sommes froids à prier, disait-il, qu'ils nous souviennent soudain combien de nos frères défaillent sous de pesants fardeaux et de grièves fâcheries, combien il en est qui sont pressés de grandes angoisses en leur cœur et en toute extrémité de maux. Il faudrait que nous ayons bien des cœurs de fer ou d'acier si cette lâcheté à prier ne peut alors nous être ôtée du cœur. » Calvin se sentait le besoin de donner à la foi de ses amis un fondement solide. « Un arbre qui n'a pas de racines profondes, disait-il, est facilement arraché par le premier souffle de l'orage. » Il jetait alors sur le papier, nous l'avons dit, les premières idées de son institution chrétienne. Un jour qu'il partait pour Gérac, il prit avec lui ses feuilles et lut au cercle réuni dans le château ce qu'il venait d'écrire. Il le fit dès lors plusieurs fois, mais ses notes n'étaient qu'un texte qu'il expliquait avec éloquence. « Personne ne l'égale, disait-on, dans la noblesse des expressions, la concision des points et la majesté du style. » Il ne se contentait pas d'exposer telle ou telle doctrine. Sa belle intelligence saisissait l'unité organique des vérités chrétiennes et il savait les présenter comme un ensemble divin. C'était sans doute le cri de sa conscience qu'il avait porté à chercher le salut dans les Saintes Écritures. Mais il n'avait pu les étudier, les comparer, les approfondir, sans que son intelligence en fût éclairée, développée, sanctifiée. La faculté morale est celle qui s'éveille la première dans le chrétien. Mais elle provoque aussitôt l'exercice des facultés intellectuelles. Les citoyens du royaume de Dieu ne sont pas ceux qui savent, mais ceux qui croient, non les érudits, mais les régénérés. Une église dans laquelle la faculté intellectuelle est au-dessus de la faculté morale ne porte pas l'empreinte du principe protestant et chrétien. Mais toute église dans laquelle l'intelligence, cette faculté divine, est négligée, et où l'on n'a pour les études que des défiances, tombera facilement dans de funestes erreurs. Les expositions de Calvin, si profondes et pourtant si claires, n'étaient point inutiles. Du Tillet, Chailloux, Delaplace, Torsac, d'autres encore, se témoignaient l'un à l'autre, quand le jeune docteur s'était retiré, leur admiration et leur joie. Puis ils méditaient chez eux, dans la solitude, les consolantes vérités qu'ils avaient entendues. Plusieurs des hommes les plus considérés du pays furent gagnés aux convictions évangéliques. Le prieur de Bouteville, surtout, montra dès lors tant de foi et de zèle. Il fut tellement, après le départ de Calvin, le père et le conducteur de ceux qui avaient reçu la semence de la vérité, qu'on l'appelait dans la province le pape des luthériens. La sphère de Calvin s'étendait peu à peu. Il écrivait à ceux auxquels il ne pouvait parler. Bientôt, ses amis se demandèrent pourquoi il garderait pour eux seuls le pain de vie qui les nourrissait. Un jour, un d'eux, exprimant cette pensée au docteur, ajouta « Mais vous ne pouvez atteindre le peuple que dans les temples. » Il n'était guère possible que Calvin, chassé de Paris, parcourût en missionnaire évangélique les églises de l'Angoumois. « Faites-nous de courtes exhortations chrétiennes, lui dit son ami, et nous les donnerons à des curés bien disposés qui les liront au prône. » Il le fit, et d'humbles vicaires lurent du haut de la chaire, aussi bien qu'ils le purent, ces évangéliques appels. Ainsi, Calvin prêcha par la bouche des prêtres à de pauvres villageois, comme il avait péroré l'imposante Sorbonne par la bouche du recteur. Ceci encouragea certains dignitaires de l'Église, le prieur surtout, qui était à la fois ses disciples et ses patrons. Si Calvin ne pouvait prêcher en français, pourquoi n'enseignerait-il pas en latin? Ils entourèrent le jeune docteur, ils lui représentèrent que le latin, cette langue de l'Église romaine, ne peut donner aucun scandale. Ils lui demandèrent de prononcer des oraisons latines devant le clergé. Calvin, persuadé que c'est par l'enseignement du prêtre que la réforme doit commencer, fit quelques discours latins dans l'église de Saint-Pierre. C'est ainsi qu'il inaugurait sa vie de réformateur. Tout cela ne pouvait se faire sans exciter quelques murmures. Les sectateurs fidèles de Rome se plaignaient de lui, du prieur, de tous ses amis, et cette opposition pouvait devenir dangereuse. « Instrument fatal, dit un catholique à l'occasion de ce séjour dans l'Angoumois, qui devait réduire la France à de plus grandes extrémités que n'avaient fait les Sarrasins, les Allemands, les Anglais et la Maison d'Autriche. » Il n'était pourtant pas le seul qui travaillât à cette œuvre excellente.